Bonsoir Christian Salmon, merci d'être avec nous au téléphone.
Bonsoir.
Alors, une première question sur Catmos Machine, cet ouvrage qui est en librairie actuellement, publié aux éditions La Découverte. Ma première question, c'est que cherchez-vous à nous démontrer à travers le cas de Catmos?
Le cas de Kate Moss est emblématique un peu d'une période d'abord. Hein. C'est cette période des années 90 et 2000 d'ailleurs. C'est 20 années de la transition d'un siècle à l'autre. Et Kate fait irruption dans cette période un peu qui est une sorte de parenthèse entre le 20e siècle qui s'achève au moment de la chute du mur de Berlin et le 21e qui ne commence que le 11 septembre 2001. Cette situation, moi, je la qualifie de situation d'impasse narrative, dans la mesure où la génération qui arrive à l'âge adulte dans ces années-là se trouve en quelque sorte privée d'histoire. On a parlé, vous vous souvenez de l'article de Fukuyama, la fin de l'histoire, Jean-François Lyotard, auparavant, avait parlé de la fin des grands récits. Eh bien, cette génération se trouve dans cette situation, elle ne peut pas se raccrocher à un récit collectif, ou un récit d'émancipation, et donc elle se trouve un peu contrainte de s'inventer sa propre histoire, un peu comme les héros du roman de Douglas Coupland, Génération X, vous savez, qui s'en vont dans cette patrie imaginaire, cette patrie des histoires, pour vivre une sorte de ce qu'ils appellent la politique des histoires du soir, c'est-à-dire qu'ils se transforment en personnages de roman et vivent des histoires un peu inventées, artificielles, faute de pouvoir vivre des expériences réelles. Kate Moss est emblématique de ça à divers titres. D'abord, elle apparaît dans un monde de la mode qui est bouleversé. Les supermodèles des années 80 commencent à lasser par leur perfection, par leur performativité. Et il y a une sorte de tendance à développer des anti-modèles dans la mode et aussi de favoriser des récits plutôt que des mises en scène somptueuses. On a là des magazines d'abord d'avant-garde comme The Face ou Heidi qui vont ouvrir des pages qu'on appelle les éditoriaux. Et dans ces pages d'éditoriaux, les mannequins, les anti-mannequins, dont Kate Moss est un peu l'emblème, sont pris dans des situations de la vie quotidienne, sont photographiés dans la rue, dans des supermarchés, dans des gares, et ils incarnent des personnages. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Kate Moss, c'est que la première des choses par laquelle elle se distingue, c'est que lorsqu'elle arrive sur un podium ou dans un shooting, la première question qu'elle pose, c'est « What is the story ?», c'est-à-dire « Quel est le scénario ? Quelle est l'histoire que je dois raconter ?» Alors c'est très très frappant parce que John Galliano, qui a été un peu son pygmalion, hein, c'est le premier à l'avoir fait défiler à Paris, alors qu'elle n'a que 14 ans, elle vient de Londres, et son défilé est inspiré par la fuite d'Anastasia, la fille du tsar. Et au moment de pénétrer sur le podium, Galliano, lui, c'est elle qui raconte ça, lui souffle à l'oreille, tu es poursuivi par les loups. Et la petite Kate, de 14 ans, se lance sur le podium en courant littéralement, comme une dératée, dira John Galliano. Et toute l'assistance se lève, c'est un véritable coup de théâtre. On découvre une sorte de d'égérie, de personnage qui transforme le rythme très mesuré des défilés très conventionnels en une sorte de happening. Et Galliano dira, on n'avait jamais vu une crinoline voler ainsi au-dessus d'un podium. Donc vous voyez, Kate Moss apparaît donc dans cette situation de l'impasse narrative, et c'est le premier mannequin. J'ai oublié de dire une chose importante aussi, c'est que elle est plutôt de petite taille par rapport aux supermodèles comme Naomi Campbell et d'autres. Elle a des défauts physiques, des dents pointues, les jambes un peu arquées, des taches de rousseur. Mais si vous voulez, cette imperfection relative par rapport aux supermodèles qui ne laisser d'autre solution que de les admirer. Par contre, cette imperfection, cette beauté imparfaite, comme on l'a appelée, est porteuse d'univers romanesque, de projection. Elle est à la fois femme et enfant, androgyne, jeune fille, waif, hein, on dit la fille des rues, fille abandonnée, et en même temps un personnage de l'amour qui marche aux côtés de Johnny Depp, le grand acteur. Donc ces contradictions, ces caractères très typés, permettent d'inventer autour d'elle des situations romanesques, et c'est ce que vont s'employer à faire les grands photographes de mode qui la prennent très vite comme leur égérie.
Alors vous dites bien, Kate Moss, elle est autant actrice que modèle. La mode également raconte donc une histoire. On va aller un peu plus loin. Est-ce une histoire de l'avenir de la femme qui nous est proposée ?
Écoutez, il faut se rappeler ce que disait Roland Barthes, hein, de la mode, puisque c'est le dernier à avoir parlé de la mode dans deux ouvrages, d'ailleurs, les mythologies, qui sont les plus célèbres, mais aussi son livre de sémiologie de la mode qui s'appelle « Système de la mode ». Dans « Système de la mode », donc publié à la fin des années 60, que dit Roland Barthes ? Il dit, Roland Barthes, que la mode est un univers un peu autonome, un peu une sorte de bulle, hein, comme on parle de la bulle d'Internet, ben, il y a la bulle de la mode, c'est-à-dire que la mode présente des personnages relativement typés. Il dit, dans la mode, on ne voyage qu'avec son mari, vous voyez, c'est-à-dire qu'on exclut tout drame, toute intrigue qui peuple la culture populaire. Eh bien, dans la mode, non, on voyage avec son mari, et la mode, dit-il, est soumise à une loi d'euphorie. Vous voyez, quand on pense aux années 90, à l'héroïne chic, au scandale qu'a suscité Kate Moss dans ses campagnes pour le parfum Obsession, par exemple, où on l'a accusé d'encourager l'anorexie des jeunes filles, ou encore un autre éditorial publié par le Vogue anglais dans lequel elle est accusée d'érotiser l'enfance d'encourager l'addiction, l'usage de la drogue, etc., on voit qu'on a changé d'univers complètement. Alors cet univers, fortement historisé, fortement dramatisé, c'est un peu le monde dans lequel on vit depuis le début des années 90. C'est le monde de la crise, c'est le monde de la mondialisation, avec, il ne faut pas oublier, l'apparition de chaînes comme MTV, qui vont mondialiser ces schémas narratifs, ces personnages, ces univers. Donc c'est un monde très différent de celui qu'examinait Barthes à la fin des années 60. Je voudrais ajouter une chose aussi, c'est que la mode se transforme au début des années 90, non seulement en devenant un univers romanesque, alors qu'elle ne l'était pas auparavant, mais également en se liant, en se dissolvant dans la culture jeune. Il faudrait repenser à ce livre formidable de Naomi Klein, No Logo, hein, pour voir comment les marques, à travers le marketing narratif, pénètrent les banlieues, s'inspirent des habitus, des styles vestimentaires de la banlieue. La mode, donc, à travers MTV, à travers la scène musicale, les rêves parties, etc., devient quelque chose qui change aussi le public. Ce n'est plus la grande bourgeoisie qui achète des robes numérotées à des prix défiant le budget des classes moyennes. Là, au contraire, on a une mode qui s'adresse à la jeunesse et qui va proposer à cette jeunesse une sorte de mode opératoire. C'est-à-dire que la mode cesse d'être, si vous voulez, un simple atout de distinction, mais va devenir une manière de s'identifier dans la société. Kate Moss dit cette chose, elle dit, quand on habite en banlieue, puisqu'elle est originaire de la banlieue sud de Londres, comme le sont aussi les photographes qui vont la lancer, Corinne Day et la styliste Melanie Warren, mais également John Galliano et Alexander McQueen. C'est un petit univers issu de la banlieue. Et Kate Moss dit, quand on vit en banlieue, on suit beaucoup plus la mode, on est beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention aux tendances. Alors évidemment, on peut se moquer de ce qu'on pourrait considérer comme une aliénation à la mode, à la publicité, etc. Mais on peut y voir aussi une sorte de conscience très aiguë de la manière dont la société se structure. C'est-à-dire, selon que vous serez bien habillé ou mal habillé, selon que vous aurez le bon look ou le mauvais look, vous pourrez vous intégrer plus facilement dans cette société du showbiz qui est devenu le néolibéralisme. Donc, si vous voulez, c'est une. Il y a Naomi Klein parle par exemple de ces jeunes de banlieue qui préfèrent leur basket Nike à leur petite amie. Alors évidemment, ça fait sourire, mais on peut y voir aussi une conscience aiguë des manières de s'intégrer dans la société et de l'extrême pression qui est exercée sur ces jeunes de banlieue. Si vous n'êtes pas branché, vous serez exclu. Si vous n'êtes pas cool, vous ne trouverez pas de boulot. Et donc, il y a une conscience aiguë de la différenciation sociale et finalement des luttes sociales qui traversent cette société.
Mais Christian Salmon, j'ai l'impression que vous allez plus loin encore, notamment dans votre conclusion. Je vais vous citer longuement. Vous écrivez « La mode cultive l'idéal type d'une panhumanité de synthèse, composé à partir de combinaisons d'éléments vestimentaires et identitaires qui doit autant aux bi qu'aux habits. Fini les modèles à imiter les déesses d'Hollywood, le temps n'est plus aux égéries, mais aux mutants. Le statut de mannequinat se transforme, de simple modèle à imiter, il est devenu un modèle de simulation. » Alors ma question c'est, Katmos est-elle une représentation du corps de notre futur ?
Sans doute, mais je dirais plutôt qu'elle est le modèle au sens de la modélisation, hein, au sens d'un modèle mathématique, c'est-à-dire ses performances, sa vie privée, sa vie publique, la manière dont elle règne sur Internet, mettent en scène des mutations. C'est-à-dire qu'elle est plutôt plutôt qu'une représentation au sens théâtral d'une imitation d'un personnage qui imite un certain modèle. Elle permet d'expérimenter d'autres formes d'individualisme. Hein, c'est ce que, par exemple, le roman a fait dans le XVIIIe siècle, où le statut de la femme étant en train de changer, bah, le roman va mettre en scène toutes sortes de situations où vont s'expérimenter des nouvelles conduites, aussi bien des conduites sexuelles, des conduites amoureuses, des rapports au désir. Et le roman va passionnément s'attacher à cette expérimentation sur ces devenirs féminins différents. Au début du XXIe siècle, c'est la mode qui, sans aucun doute, est l'espace dans lequel se règlent ces mutations. Nouveau rapport au corps, c'est-à-dire un corps qui n'est plus enfermé dans le dualisme masculin-féminin, mais qui s'ouvre, comme on le voit par exemple dans le film Avatar de James Cameron, qui s'ouvre à des noces différentes avec la technique dans la modélisation, par exemple, Avatar, mais aussi de nouveaux rapports à la nature, de nouveaux rapports à la mobilité. C'est dans ce sens-là que je dis que Kate Moss est plus une mutante qu'une actrice même, et qu'elle incarne au fond la manière dont une sorte d'idéal féminin est au travail en ce moment, se cherche, et bon, elle en est un peu une sorte de modalité d'expérience.
Vous concluez avec Donna Haraway, et vous citez Donna Haraway qui dit « Je préfère être un cyborg qu'une déesse ». On a presque l'impression que cette phrase pourrait s'appliquer à Kate Moss.
Oui, tout à fait. Le livre de Donna, le fameux livre d'ailleurs qu'on peut trouver sur Internet, il est disponible sur Internet, le Manifeste Cyborg, c'est un livre qui a joué un rôle très important pour transformer un peu la conception du féminisme, hein, puisque au fond le féminisme, j'allais dire le papa, plutôt le féminisme de maman, c'est la femme qui doit acquérir les mêmes attributs, les mêmes droits, les mêmes statuts que l'homme dans la société. Donc c'est, si vous voulez, un féminisme adossé à un dualisme masculin-féminin, ou nature-culture. Donna Haraway plaidait pour un nouveau féminisme qui, au lieu de s'enfermer dans un tête-à-tête avec le masculin, s'ouvrirait à d'autres modalités d'expérience, y compris des modalités d'expérience animale, des modalités de rapport à la science, à la technique, aux nouvelles technologies, tout le registre, si vous voulez, des transformations organiques qui se lient à la technique à travers les clonages, mais aussi toutes les techniques d'ornementation du corps, le piercing, le tatouage, etc. Donc, ce champ d'expérience nouveau qui brise le dualisme de l'homme et de la femme incarne un être cyborg, hein. Et le désir de cette nouvelle modalité du féminin, c'est effectivement le cri de Donna Haraway. Je préfère être cyborg que déesse. Fini les égéries, fini les modalités, les modèles à copier, à imiter. Mais Donna Haraway ouvre la voie, au fond, à de nouvelles formes d'expérimentation humaine.
On va continuer sur cette voie-là, mais en décalant un petit peu. Vous dites que Kate Moss est une personnalité caméléon, qui serait le symbole de la modernité liquide, ce concept inventé par Zygmunt Bauman, quel serait l'idéal type de notre société qui recherche des sujets capables d'acquérir sans cesse de nouvelles compétences. Vous dites Kate Moss est une figure des limbes post-industrielles.
Oui, tout à fait. Là, on entre, si vous voulez, dans les transformations socio-économiques qu'a induites le néolibéralisme, parce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans le précédent livre que j'avais publié, qui s'appelait « Storytelling, la machine à fabriquer des histoires », c'est qu'il y a une situation un peu multifactorielle, hein. Vous avez l'explosion d'Internet, vous avez la chute du mur de Berlin dont j'ai parlé, qui ouvre la situation d'impasse narrative, mais vous avez aussi la révolution néolibérale qui triomphe aux États-Unis et en Angleterre sous l'égide de Reagan et Margaret Thatcher. Qu'est-ce que ça transforme ? Eh bien, ça transforme notamment le management des entreprises, puisque des entreprises qui, pendant des décennies, s'étaient efforcées de construire des unités de production stables, rassemblant des collectifs de travailleurs nombreux, produisant des produits en série, doit se révolutionner complètement avec la mondialisation, subir des délocalisations, s'adapter à des conjonctures changeantes constamment. Donc de là naît le modèle d'une entreprise nomade, mobile, avec des collectifs qui se transforment sans arrêt, un petit peu comme, si vous voulez, à Hollywood, les collectifs de production d'un film, où on constitue une équipe à un moment donné pour un projet, et puis à la fin du projet, on dissout le collectif et on en recrée un autre pour un autre projet. Ce modèle-là, hollywoodien, va devenir notamment sous Tony Blair, le modèle un peu d'une économie construite, enfin de structure industrielle construite sur le modèle hollywoodien, sur le modèle des collectifs de production cinématographique. On parlera même d'une hollywoodisation du marché du travail. Alors ça suppose des compétences complètement différentes. Dans l'ancien système, les compétences étaient l'expérience acquise, le savoir-faire, la technologie, la loyauté par rapport à l'entreprise, la durabilité, la persistance des collectifs de travail pour transmettre les savoir-faire, etc. Ce modèle explose complètement. Ce dont on a besoin, c'est de gens qui performent, qui sont capables de s'adapter à des tâches complètement différentes, à changer de lieu, à changer même de compétences. Et donc, si vous voulez, la compétence devient plus une compétence de performeur plutôt qu'une compétence de technicien. C'est ça qui traverse toute la société, parce que dans le même temps, l'usine de Karl Marx, dans l'imaginaire, si vous voulez, des néo-travaillistes anglais, va céder la place à la fabrique d'Andy Warhol. La classe ouvrière, qui était un peu la base électorale du marché du travail, va céder la place à la jeunesse, hein. Et donc, on a une reconfiguration, en fait, socio-économique de la société, qui évidemment exige de nouvelles qualités, à condition, et on va exiger ces qualités, mais pour les exiger, il faut les transformer en look, en qualité désirable, en roman, en image de publicité, et c'est un petit peu ce que la mode va s'efforcer de faire. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, dans ces années-là du néo-travaillisme de Tony Blair, apparaît une sorte de complexe que j'appelle, pour rire, cosmético-industriel, c'est-à-dire à la fois remplissant des tâches industrielles et des tâches cosmétiques, visant à donner une autre idée de la beauté pour que les gens soient attirés par ces schémas-là. D'ailleurs, le management devient un peu cosmétique puisqu'on parle de lean management, c'est-à-dire du management de la maigreur, au même moment où les idéotypes du féminin, c'est bien ce qu'on reprochera à Kate Moss, sont associés eux aussi à la maigreur extrême et à la drogue. Et donc on a un individu performeur, liquide, adaptable, mobile, mais également capable sans cesse de faire des expérimentations. Et ça, c'est l'ultime élément qui est intéressant chez Kate Moss, c'est capable de faire des expériences jusqu'à la fracture. Mais jusque là, en effet, l'individu occidental est évidemment un individu capable de mener des expériences, mais cette expérimentation de soi était limitée par la conservation de soi, qui depuis des lustres fait partie du capital génétique de l'humanité. Le souci de soi, le souci de se conserver en vie, hein, aussi bien pour les individus que pour les races, que pour les espèces. Eh bien, cette butée de la conservation de soi, et on a une conservation de soi qui doit aller jusqu'à la fracture. D'où la mise en valeur l'esthétisation, en fait, de la drogue, qui illustre, à mon avis, le fait que l'individu doit aller jusqu'au bout, doit pouvoir s'expérimenter jusqu'à la fracture, et ça donnera ce nouveau look assez incroyable, qui est l'héroïne chic, qui va poser des débats de société au point que le débat va monter jusqu'au bureau ovale de la Maison Blanche en 97, lorsque Clinton sera obligé de mettre le holà et de rappeler à l'ordre l'industrie de la mode en disant il n'y a pas besoin de glamouriser l'addiction pour vendre des vêtements. C'est dire à quel point cette mise en avant de cet idéal type de l'expérimentation jusqu'à la fracture est allée loin.
Alors, de ce que vous dites là, dans votre réponse, de ce système cosmético-industriel, découle la métamorphose du corps. À un moment donné, vous dites « Le mythe de Kate Moss est contemporain des avatars de Second Life, du clonage et des logiciels de morphing. » On est là dans la mutation du corps, dans sa métamorphose. Vous dites même que Kate Moss, son visage est comme un logo.
Absolument, c'est-à-dire qu'elle est plus proche du branding au sens de la fabrication de logos, du marketing, que du naturalisme. Hein. C'est-à-dire que l'idéal, si vous voulez être transformiste, changer de personnage, de look, vous adapter à des audiences différentes, évidemment, c'est l'avatar de Second Life, qui est un minimum d'organisme, avec, si possible, on le voit dans certains morphings sur Internet, avec si possible ablation des organes génitaux et digestifs, hein, qu'on transforme par des machines dans des sortes de morphing d'images. Donc on voit bien là ce qui est à l'œuvre, hein, c'est-à-dire l'individu expérimentateur de lui-même, capable de s'adapter à des changements constants, devient une sorte de petite machine qui est beaucoup plus proche d'un avatar que d'un être humain.
Eh bien, merci beaucoup, Christian Salmonde.